Avant toute chose, nous nous plaçons devant cette bonne nouvelle de l'Évangile si bouleversante. C'est que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données sans condition. Quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quel que soit votre parcours de vie, quelle que soit votre Église, bien entendu, Dieu vous bénit et vous accompagne avec tendresse. Avec grande joie de se retrouver ici ensemble, à quelques-uns, pour faire corps, célébrer notre Dieu et nous ouvrir à ce qu'il désire nous apporter aujourd'hui. C'est aussi un témoignage pour le monde de pouvoir être là, ensemble, au cœur de la ville. Alors merci, c'est une bénédiction pour nous que vous soyez venus, malgré les gouttes qui tombent. Alors je vous propose, face à cette annonce de la grâce, de faire monter notre louange à Dieu. Alors je vous propose de vous associer du cœur à cette traduction du psaume 111 par Paul Claudel, le poète et le frère de la célèbre sculptrice Camille Claudel. Ohé les bonnes gens, peut-être que ce n'est pas trop d'être tous ensemble pour dire au bon Dieu que l'on est content de lui. Dites, c'est beau ce qu'il fait pour nous, c'est d'une adresse à ne pas y croire. On en a plein le cœur de sa magnificence et sa justice marche au travers des ciels en triomphe. On a quelqu'un pour penser à nous qui a de la mémoire, qui est plein de tendresse et de compassion. Quand on s'ouvre à lui, c'est du pain qu'il nous met dans la bouche pour le manger. Ce qu'il fait, quelle saveur cela a! Et ça l'amuse de goûter que nous le goûtons. Ses mains ne sont que vérité et justice. Son nom est saint et magnifique. Le souci qu'on a de lui faire de la peine, c'est par là, mes petits-enfants, pour nous que ça commence à avancer. Travaillons là-dessus avec tout l'esprit que nous pourrons, et les siècles passés se leveront derrière nous pour nous dire vraiment bravo. Alors c'est ce psaume 111 que je vous propose de chanter, c'est le numéro 55 dans notre psautier. De tout mon cœur, je louerai Dieu avec les saints dans le saint lieu. Les trois strophes de ce psaume 111, numéro 55. En Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. » C'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers notre Dieu avec confiance, avec espérance, dans toutes les circonstances de notre existence, bonne ou mauvaise. Il nous aide à avancer. Alors c'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur ce célèbre psaume de David, qui s'y connaissait en grand péché et en repentance. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché et ma faute est toujours devant moi. Mais tu veux au fond de moi la fidélité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête, et ils danseront les eaux broyées. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, mon Dieu. Renouvelle, raffermis au fond de moi mon propre esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint, mais donne-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Alors aux pécheurs j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les autres égarés. Alors oui, libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue proclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche chantera ta louange. Voici ce que dit l'Éternel notre Dieu à chacune et à chacun au plus profond de son cœur. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix avec toi ne sera jamais ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel et moi, je te consolerai comme une mère console son enfant. Et effectivement, en Christ, l'Éternel notre Dieu se penche vers nous et nous dit « Mon enfant, tes péchés ont déjà été pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. » Je vous propose de chanter notre reconnaissance avec le psaume 65, donc c'est le numéro 33 de notre psautier. Numéro 33, psaume 65, c'est ta louange, ô Dieu fidèle, qu'il faut toujours chanter. Les trois strophes, trois premières strophes de ce psaume 65. Lors de la dernière prédication, j'ai essayé de lire dans la lettre de l'apôtre Paul à Tite cette affirmation forte qu'il pose comme étant la base de l'Évangile, c'est le salut de Dieu pour tous les humains. Alors si vous n'étiez pas là il y a 15 jours, ça ne fait rien, ce sont des épisodes qui vont ensemble mais que l'on peut entendre séparément et vous trouverez le texte de l'autre prédication sur Internet. Mais c'est pour vous dire qu'à la suite de cette prédication, donc où j'annonçais le salut pour tous les humains, plusieurs personnes ont soulevé cette objection majeure et très juste. Comment peut-on imaginer un paradis où l'on croiserait dans les vertes allées, pavées de pétales de rose et bordées de lys, bien sûr, de croiser tout ce qu'il y a eu de pire comme tyran ou comme individu ayant un comportement monstrueusement nuisible? Alors c'est une question pertinente à laquelle l'apôtre Paul a pensé et il répond dans ce même passage de sa lettre à Tite à cette question. Le salut n'est pas simplement une amnistie, c'est une transformation radicale. Paul l'explique. Dieu nous a sauvés par le bain de la régénération et du renouvellement de l'Esprit-Saint. Alors oui, la grâce de Dieu est un amour inconditionnel qui ne peut se résigner à perdre aucune de ses créatures. Nous irons donc tous au paradis, comme le dit la chanson. Cela passe par une double action de Dieu qui est au bénéfice de chacun. La régénération et le renouvellement opérés par Dieu lui-même, par son souffle de vie. Alors je vous propose de réentendre donc la partie de l'évangile de la lettre de Paul à Tite au chapitre 3 qui parle de cette question. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois insensés, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs, passant notre temps dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et nous détestant mutuellement. Bon, alors il parle de lui qui effectivement était persécuteur des chrétiens. Ensuite, il dit « Cependant, lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les humains, non pas parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, il nous a sauvés par le bain de la régénération et du renouvellement par l'Esprit-Saint, qu'il a répandu sur nous avec abondance en Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. » Alors Paul parle ici du renouvellement, cette palingénésie, comme on dit en philosophie, en haute philosophie, mais Jésus en parle aussi de cette palingénésie, de ce renouvellement. Il nous dit, par exemple, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 19, répondant à une question de l'apôtre Pierre. « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous gouvernerez les 12 tribus. » Et puis finalement, je vous propose d'entendre le psaume 1er, 1000 ans avant donc l'Évangile, qui méditait sur ces bons soins que Dieu nous offre pour nous sauver. Heureux l'humain qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne jaunit jamais. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs se perd. Ô notre Dieu, permet que dans ces témoignages anciens que nous venons d'entendre, nous puissions recevoir chacune et chacun dans notre cœur ce que tu veux nous adresser aujourd'hui. Fais spécialement pour nous, sur mesure, pour nous faire vivre. Tu viens toi-même nous donner ton esprit, ton souffle de vie, de joie et de paix, de discernement et d'enthousiasme. Alors oui, éclaire-nous, Éternel notre Dieu. Amen. Et je vous propose de poursuivre cette prière en prenant le cantique 429. 429, « Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brillât sur l'univers ». Alors le terme traduit par « régénération », c'est le mot grec « palingenesia », « palingénésie » donc en haute philosophie, de « paline » qui veut dire « à nouveau » et de « genesis », la genèse, donc la création. Il ne s'agit pas d'une unique seconde naissance, mais de notre création poursuivie sans cesse à nouveau, de jour en jour. C'est un processus continu, poursuivi sans cesse pour chaque personne humaine. Et nous le sentons bien, effectivement, dans notre vie. Il nous arrive parfois le bonheur de sentir que nous avons comme franchi un palier dans la vie toute simple ou parfois à l'occasion d'une difficulté. En tout cas, nous sentons à tout âge que nous évoluons, que nous mûrissons, peut-être que nous devenons plus sages aussi. C'est cela dont il est question. Jésus utilise souvent les images agricoles pour illustrer cela. Il en parle comme du royaume de Dieu. Alors le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'action de Dieu en nous pour nous sauver. Il en parle comme d'un semeur qui répand abondamment ses graines sans compter, comme des germes de bonté et de création. Ou bien comme une graine de moutarde qui devient un grand arbre capable de domestiquer des aspects sauvages de notre être. Et le psaume premier, nous l'avons entendu, renvoie lui à l'image d'un arbre, encore, qui est irrigué en profondeur, destiné à croître un peu chaque jour, même si c'est insensiblement, et puis à porter du fruit en sa saison. Le terme de régénération ne me semble donc pas bien rendre cette idée de nouveauté qu'il y a dans le mot grec, dans ce que dit Jésus, cette nouveauté permanente. Et là, dit l'expression de nouvelle naissance, non plus, car elle pourrait faire penser en une unique nouvelle étape dans notre vie. Il me semble donc plus juste de parler de création continuée. Cette nature inachevée de l'humain est pour nous à la fois une difficulté et une vraie bénédiction. Une difficulté, évidemment, car l'humain est inabouti, donc imparfait. Alors c'est un peu décevant, mais c'est une bénédiction parce que nous sommes libres de participer ainsi à notre propre genèse avec Dieu. Et cette création continuée nous fait connaître d'immenses bonheurs, celui de grandir, celui d'aimer plus et d'aimer mieux, celui d'avoir moins peur des autres et de la vie, et d'être parfois nous-mêmes source de bonnes nouveautés dans ce monde autour de nous. Mais bien sûr, en attendant, toute personne humaine est imparfaite, à la fois pécheresse et donc au bénéfice de la grâce de Dieu, de son pardon, mais aussi de ses bons soins, parce que l'amnistie ne suffit pas, notre imperfection demande donc des soins. Cette imperfection, elle pose quand même effectivement des problèmes concrets dans la vie de tous les jours, parce que cette imperfection produit de la souffrance et de la mort. C'est ce dont s'inquiétaient effectivement nos amis quant à honorer avec bienveillance l'existence de toutes sortes de personnes assez fâcheuses par leur comportement. Et puis, encore plus, pense-t-on, à accueillir ces méchants, ces grands méchants, dans le paradis. Alors, que fait Dieu ? Ben, comme dans un jardin, finalement, puisqu'on parle du paradis, il ne suffit pas de planter des bonnes graines, ce qu'il fait donc par sa palingénésie. Quand on plante des bonnes graines dans un jardin, je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a pas tourné le dos que de mauvaises herbes se mettent à pousser joyeusement. Et puis il y a aussi des branches mortes qui bloquent la montée de la sève. C'est pourquoi un bon jardinier, comme Dieu, a besoin d'une seconde opération de salut indispensable, en plus de la création continuée. Alors si le terme de la palingénésie est un terme de la haute théologie empruntée par Jésus et Paul aux stoïciens, le terme de renouvellement s'est tiré, lui, du vocabulaire très courant de la vie de tous les jours. C'est le terme qui parle de la rénovation d'un bâtiment qui est un peu ancien, par exemple, ou la réparation d'un objet qui est cassé, qui est abîmé. C'est donc un travail d'artisan. Dieu est donc notre créateur continu, mais il est aussi notre réparateur d'humains. La création continuée, elle est purement positive, apportant un supplément d'être, de bonté et de vie. La réparation de l'humain, c'est plutôt comme un soin médical qui vise à enlever une tumeur. C'est ce qui est mis en image dans le psaume premier, qui aurait pu sembler être menaçant en première lecture, mais non. Il présente deux portraits, celui du juste et celui du méchant. Toute personne est à la fois, plus ou moins, en proportions diverses, l'un et l'autre, bien entendu. Le travail de réparation est comparé, par le psaume premier, à celui du vannage du blé. Sur l'aire de battage, souvent placé par exemple sur un col, parce qu'effectivement il y a un plein vent qui passe et qui est accéléré par le col, le vent emporte la paille pour ne laisser dans le panier que les bons grains qui pourront ensuite être moulus pour en faire du bon pain. Alors ce vent, ce souffle qui sert pour faire le tri, le vannage, c'est l'Esprit de Dieu, bien entendu. Alors, quand on regarde cette image de la paille et des grains, il est clair que cela dit que chaque personne est comme l'épi entier, à la fois paille et grain, méchanceté et bonté. On ne peut avoir l'un sans l'autre dans un épi. On ne pourrait pas avoir les grains qui flottent comme ça en l'air sans la paille pour le porter, c'est comme ça. Mais aussi l'être humain au cours de sa genèse. Par définition, il est encore imparfait, mais il y a aussi déjà quelque chose qui est de l'ordre de la perfection en lui. Et donc le jugement de Dieu, il ne vise pas à éliminer certaines personnes, mais à trier au sein de chaque personne pour garder précieusement la meilleure part de chacun, le grain, et supprimer son côté piquant, la paille. Et donc ce jugement de Dieu, c'est de l'amour, bien sûr. Comment serait-il autrement avec Dieu? Parce que c'est ce que fait l'amour. Roméo, quand il regarde Juliette, l'ami, quand il regarde son ami, les parents, quand ils regardent leur enfant, ou les enfants regardent leurs parents ou leurs grands-parents, parce que les parents, c'est toujours un peu ennuyeux, bien sûr. Donc l'amour, il discerne, il valorise, il conserve ce qui est bon, ce qui est prometteur chez l'autre, même si ce bien est caché sous toute une meule de paille. Paul témoigne lui-même de cette rénovation. Lui qui fut autrefois un furieux intégriste, persécutant les autres, il reconnaît. Nous étions autrefois insensés, rebelles, écarés, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs, passant notre temps dans la méchanceté et dans l'envie, odieux, nous détestant mutuellement. Mais l'Esprit l'a soigné de cette méchanceté. Effectivement, dans une expérience mystique, dans une démarche qui avait peut-être commencé avant, de recherche du salut de Dieu, il y a pu y avoir un tri, une opération pour le sauver. Et l'Esprit l'a éloigné de cette méchanceté et il a conservé la beauté de l'enthousiasme de Paul qui est maintenant au service du bien. Et donc le jugement de Dieu est ainsi. C'est une purification de chaque personne, ce n'est pas une sélection de quelques-uns. Cette purification, c'est une image récurrente dans les évangiles. comme la moisson suivie par le vannage du blé. Ça apparaît plusieurs fois dans les évangiles de Jésus-Christ, mais là, elle était dans le psaume premier. On parle aussi de la vendange et du pressoir. Ça permet effectivement de ne pas mettre le cep de vigne entier dans notre bouteille. On commence par vendanger, puis ensuite on le met dans le pressoir pour garder la moindre goutte de bon jus et éliminer les rafles. On parle aussi d'un minerai passé au feu pour éliminer les scories et ne garder que l'or, l'argent, le platine, qui est à l'intérieur de nous, finalement. Alors, une lecture hâtive de la Bible peut se laisser abuser par ces images du juste et du méchant, avec comme conclusion de l'histoire que le méchant sera éliminé et jeté dans les flammes de la géhenne, de la décharge municipale, et avec le juste qui est gardé dans les verts pâturages du paradis. Mais en réalité, comme dans ce psaume premier, c'est le méchant en chacun qui est éliminé, et c'est le juste en chacun qui sera précieusement gardé par Dieu, par son amour puissant, bien sûr. Alors l'idée d'un concours divin où seuls les plus performants seraient sélectionnés pour la vie éternelle, c'est absurde. Même le meilleur d'entre nous a sa part de méchanceté qui reste à réparer même s'il avait été sélectionné. Mais surtout, aucun parent digne de ce nom n'abandonnerait un de ses enfants dans la forêt. C'est encore plus imaginable de la part de Dieu. Il nous garde tous. Il cherche notre croissance positive par la création continuée, injectant sans cesse un supplément d'âme à notre âme, et puis aussi par notre guérison, par la réparation. Par conséquent, oui, nous serons tous sauvés, mais après restauration, après élimination de toute notre méchanceté, de notre paille, de nos pépins, de nos scories. Alors Dieu sait ce qu'il restera d'un Adolf Hitler après une telle restauration. Mais ce ne sera plus l'épouvantable tyran. Ce sera peut-être quelque chose d'aussi mignon et minuscule qu'un nouveau-né qui évoluera enfin positivement. Mais peu importe, nous verrons bien pour ce qui est de la vie future. On n'est pas pressé. Pour l'instant, c'est ici que ça se passe. L'important, c'est de vivre aussi peu que ce soit ces deux immenses services en notre faveur que sont notre création continue et notre restauration. Dire que ce sont des fruits du travail de l'Esprit en nous, ça nous montre que ce sont effectivement des miracles que nous aurions bien eu du mal à obtenir par notre propre sagesse, parce qu'effectivement, ce n'est pas facile d'arranger notre caractère. Alors, cette théologie du salut peut nous inspirer dans notre façon de vivre à la suite de ce que Dieu fait pour nous. Alors, ça sera un regard bienveillant sur l'autre, mais sans naïveté, effectivement. Ça sera discerner le meilleur en chacun, le valorisant, l'aidant à se développer. Cette théologie de la grâce de Dieu, de sa création et de sa restauration, cette théologie, elle torpille les jugements binaires qui classent les gens et les pays entre les gentils et les méchants. Ça brise toute forme d'intégrisme. Jésus et Paul ont été inspirés donc par cette bienveillance de Dieu jusque dans leur façon de s'exprimer ici. En effet, pour dire ce salut de Dieu, ils utilisent le terme de palingénésie. Ils auraient pu citer du Ésaïe, du Jérémie ou du Zacharie pour dire la façon que Dieu a d'apporter du neuf dans notre vie et dans notre monde. Mais ils utilisent ce terme de palingénésie complètement étranger à la Bible hébraïque est directement issue de la philosophie stoïcienne. Cela montre l'attitude de Jésus et de Paul, et je trouve ça fort touchant. Ils entendent la culture de la personne qu'ils désirent accompagner, et ils partent de là sans jugement négatif, alors que le stoïcisme, c'est quand même autre chose comme philosophie que la philosophie biblique. Ils partent de là pour proposer à l'autre un cheminement. Ils évangélisent ces notions philosophiques. Et je trouve que c'est le reflet de la tendresse de Dieu et de sa patience. Et nous avons donc le droit de tâtonner dans notre façon de prier et d'agir, de prendre de ci et de là et de faire notre miel de ce qui nous a touchés. Dieu nous accompagnera toujours pour le meilleur. Amen.
Voici maintenant la prière d'intercession. Mon Dieu, nous te remercions parce que tu nous as sauvés gratuitement, sans tenir compte de nos œuvres, grâce au bain de la nouvelle naissance et à l'action du Saint-Esprit. Ainsi, tu nous procures un nouveau souffle, une source de force inépuisable qui nous permet de nous renouveler, d'opérer des miracles de notre époque, loin du spectaculaire, mais ancré dans le réel, dans notre quotidien. Cette expérience nous permet de nous rapprocher du Christ. Jésus était capable de prodiges tels que changer l'eau en vin et marcher sur l'eau. Mais les vrais miracles sont ceux qui sont à notre portée. La foi en Dieu et l'acceptation d'autrui. Oui, Seigneur, aide-nous à garder la foi en toi, même dans les moments les plus douloureux. Quand nous nous sentons impuissants face aux difficultés, aux situations injustes qui nous semblent perdurer et que nous voudrions changer. Quand nous éprouvons de la peur, de l'anxiété, quand nous avons l'impression d'être abandonnés, oubliés, ce sentiment qui est souvent pire que les épreuves. Aide-nous à nous souvenir de ta promesse inconditionnelle que rien ne peut nous séparer de ton amour. Aide-nous à accepter notre prochain, à voir ce qui est bon en lui. Ainsi, nous pourrons repartir du meilleur de chacun. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen.
Je vais vous demander de vous lever pour réciter le Notre Père, s'il vous plaît. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Grand merci à Colette et à Jasmine pour ce temps de prière qui effectivement nous nourrit profondément. Maintenant, c'est le moment donc de l'offrande et du chant du cantique numéro 370. Du cœur et de la voix, rendez à Dieu la gloire. Et l'offrande est une façon effectivement de rendre gloire à Dieu dans notre existence. C'est un geste liturgique important. Donc 370 du cœur et de la voix. Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre jour après jour. Écoute l'Éternel. Tu aimeras donc l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier, le grand commandement, nous dit-il, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour commencer à arriver à vivre de cet amour infini que Dieu nous donne, nous avons bien besoin de sa bénédiction. Bénédiction donnée au singulier, selon les paroles de Moïse. L'Éternel te bénit et il te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et il t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Alors bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout en moi bénisse ton saint nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen.